Pendant les méditations que nous aurons ensemble, où j'aurai trois messages à vous apporter, et les trois autres messages seront apportés par le pasteur Jean Blanc de Genève, qui parlera ce soir. Mais pendant mes trois messages, j'ai pensé à l'apôtre Paul. On pourrait dire bien sûr beaucoup de choses sur l'apôtre Paul, mais j'aimerais vous donner trois pensées, trois messages qui seront un peu les trois secrets de la puissance de Paul. Les trois secrets de la puissance de Paul. Et ce soir, nous allons voir le premier secret. Pourquoi Paul a-t-il été utilisé comme il l'a été ? Bien sûr, il avait un ministère particulier. Mais si Dieu a utilisé Paul, il a dit qu'on devait aussi être ses imitateurs. Si Dieu a utilisé Paul, il veut aussi nous utiliser les uns comme les autres. Amen. C'est pourquoi j'aimerais qu'on voit une première vérité importante dans la vie de Paul, qui est un peu comme son premier secret. Son premier secret, c'est que Paul est passé par une expérience de conversion radicale. Paul, un homme qui a eu une conversion authentique, profonde, qui a complètement transformé sa vie. Vous êtes d'accord avec moi? Tout a commencé par là. Et parce qu'il a bien commencé, il pouvait bien finir. Et non seulement bien finir, mais il pouvait aussi très bien finir. J'aimerais donc qu'on voit ensemble cette première vérité, ce premier secret, une vraie conversion. Tout commence par là. Mes amis, si nous n'expérimentons pas une conversion radicale dans notre vie, qui transforme vraiment nos vies, alors nous allons tourner en rond dans notre vie spirituelle, n'est-ce pas vrai? Et combien tournent en rond à cause de cela? Et Dieu veut nous donner cette conversion qui est véritablement radicale et qui transforme nos vies. Je ne veux pas dire que nous sommes parfaits du jour au lendemain, n'est-ce pas? Mais je veux dire qu'il se passe quelque chose, qu'il y a une coupure avec le passé. Il y a un changement qui se passe. Et c'est ce que Dieu veut que nous expérimentions tous, n'est-ce pas vrai? Et pour cela, nous allons lire le dernier message en somme que le Seigneur a donné à l'apôtre Paul. C'était son dernier message à son apôtre, avant qu'il aille dans le monde et dans les nations annoncer le glorieux évangile de la rédemption en Jésus-Christ. C'était le dernier message du Maître. Ce message est important pour vous comme pour moi. Amen. Ce message est important. Et nous allons voir dans ce message cinq vérités importantes pour vous et pour moi. Ces cinq vérités étaient valables pour l'apôtre Paul, mais ces cinq vérités sont valables pour toi aussi. Cinq messages, cinq révélations que le Seigneur a données à son apôtre. Il fallait qu'il en soit saisi, convaincu. Il fallait que cette vérité pénètre en lui, fasse partie intégrante de lui-même. Car s'il n'était pas convaincu lui-même, comment pourrait-il convaincre les autres, n'est-ce pas vrai? Car s'il n'était pas changé lui-même, comment pourrait-il changer les autres? C'est impossible. S'il n'était pas saisi par cette vision lui-même, comment pourrait-il communiquer cette vision aux autres? Cela aurait été impossible. Lisons ce passage extraordinaire dans les Actes des Apôtres, au chapitre 26. L'apôtre Paul se trouve devant les gens, devant Agrippa, pour sa défense. Les Juifs l'accusent, le condamnent. Et l'apôtre Paul raconte à Agrippa et aux autres autorités qui étaient là, ce qui s'est passé dans sa vie, Et quel est le message qu'il a reçu? Rappelez-vous, cela il le dit devant le roi Agrippa, devant Festus aussi, devant toutes ces autorités impériales qui étaient là. L'apôtre Paul n'avait pas peur de s'exprimer. Il avait un message. Il était lui, l'ambassadeur du roi des rois. Alléluia! Il avait devant lui des ambassadeurs de l'armée romaine, de l'empereur. Mais lui, il avait un message encore beaucoup plus important. Il avait le message du roi des rois et du seigneur des seigneurs. Alléluia! Acte 26. Voici ce qu'il dit. Au verset 9 déjà. Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des sacrificateurs, des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, ils parlent des chrétiens, bien sûr. Je joignais mon suffrage à celui des autres. Et là, ils pensent aussi à Étienne, n'est-ce pas? À Étienne. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues. Je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais, même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas, avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. » Et maintenant, écoutez bien ce verset 18. C'est là le message que le Seigneur lui donne et que nous allons méditer ensemble. « Je t'envoie donc au milieu des païens afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem dans toute la Judée, et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Quel message extraordinaire. Devant les petits comme devant les grands, l'apôtre Paul ne s'est pas tu. Le message qu'il a reçu, il ne l'a pas falsifié. Le message qu'il a reçu, il l'a donné tel qu'il était. Nous pouvons bénir Dieu pour la fidélité de Paul. Amen. Devant les rois, les empereurs, il est resté le même. Un homme plein de compassion pour les hommes, mais un homme qui était sous un commandement divin. Il devait communiquer son message. Et quel était ce message, mes amis? Ce message est la base de la conversion de tout homme. Voyez-vous, lui-même le dit, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu et la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Autrement dit, voyez-vous, lui-même est passé par une transformation complète. Et il voulait que ceux qui entendent son message passent aussi par une transformation complète. Parce qu'il y en a beaucoup qui croient aujourd'hui, mais qui ne produisent pas des fruits dignes de la repentance, n'est-ce pas vrai? Combien aujourd'hui se disent chrétiens? Allez dans une prison, par exemple, et vous posez la question aux prisonniers qui sont là, qu'est-ce que tu es toi? Moi, je suis chrétien. Mais qu'est-ce que tu fais ici alors si tu es chrétien? Ils sont chrétiens et ils sont en prison. S'ils étaient en prison pour avoir prêché l'évangile, ce serait une bonne chose. Mais ce n'était pas pour cela. Ils sont chrétiens. Ils sont chrétiens, mais leur vie n'a pas changé, n'est-ce pas vrai? Il y en a des multitudes comme cela. Des multitudes. Mes amis, si nous voulons que Dieu nous utilise, et si tu veux que Dieu t'utilise, voilà le message que Dieu veut mettre dans ta bouche. Si tu veux, et Dieu utilisera toujours cette personne qui prêche un message qui transforme les vies. Mais malheureusement, bien souvent, dans les églises, nous sommes là pour endormir les gens. Nous sommes là pour leur faire passer un bon moment. Mais il ne faut surtout pas dire quelque chose qui froisse à monsieur un tel, n'est-ce pas vrai? Il ne faut surtout pas dire quelque chose qui froisse madame un tel. Il ne faut surtout pas, au nom de l'amour, n'est-ce pas vrai? Au nom de l'amour. Et on oublie que l'amour, celui qui aime, ce n'est pas celui qui cache la vérité. Celui qui aime, c'est celui qui dit la vérité. Amen. Celui qui cache la vérité au nom de l'amour ne connaît pas ce qu'est l'amour. Il ne sait pas du tout. Il ne sait pas ce qu'il dit. Il ne sait pas ce qu'il dit. Mais le véritable amour proclame la vérité. Car Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alléluia! Il n'y a rien d'autre qui nous libère que la vérité. Avez-vous remarqué ce que le Seigneur dit? Je t'envoie vers ce peuple, au milieu des païens, afin que tu leur ouvres les yeux. Voyez-vous, il y a là une première vérité. Le rôle de l'apôtre, le ministère de l'apôtre, le témoignage de l'apôtre était d'ouvrir les yeux des gens. Ici, il n'est pas question d'ouvrir les yeux des aveugles physiques. Dieu a utilisé l'apôtre pour cela. Mais ici, il est question de ceux qui sont aveugles spirituellement. Autrement dit, les cinq vérités qu'il donne là sont cinq révélations. Cinq révélations que le Seigneur a données à son apôtre pour qu'il aille prêcher. Ce sont cinq choses que l'intelligence humaine ne peut comprendre, n'est-ce pas vrai? Afin que tu leur ouvres les yeux. Chers amis, nous avons besoin que Dieu nous ouvre les yeux. Vous êtes d'accord avec moi? Si tu n'es pas converti, Dieu a besoin de t'ouvrir les yeux. Si tu es chrétien, il y a encore des domaines où Dieu doit ouvrir tes yeux. Comme il a ouvert l'esprit de ses disciples, pour qu'ils comprennent les Écritures, n'est-ce pas vrai? Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Voyez-vous, il fallait donc qu'il y ait une délivrance. Il fallait qu'ils soient délivrés des ténèbres pour passer dans la lumière. Et la conversion, c'est une délivrance. C'est une délivrance, la conversion. C'est une délivrance. Une délivrance de quoi? Il y a cinq délivrances ici, qui correspondent à ces cinq révélations. La première délivrance est celle-ci, concernant ce passage, afin que tu leur ouvres les yeux. La première délivrance, c'est la délivrance de nos illusions. Je répète, pour expérimenter une conversion radicale, il faut que nous soyons délivrés de nos illusions. L'apôtre Paul se faisait des illusions, vous êtes d'accord avec moi? Il croyait servir Dieu et finalement il luttait contre Dieu. Voyez-vous? Il croyait servir Dieu, mais il luttait contre Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait les yeux fermés. Il était aveugle spirituellement. Il y avait quelque chose qu'il ne comprenait pas. Il était sincère. Il aimait Dieu. Mais il était contre Dieu sans le savoir. C'est pourquoi Dieu lui dit, il faut que je t'ouvre les yeux. Et vous savez, Paul, ce n'était pas le dernier venu. Ce n'était pas quelqu'un qui ne valait rien du tout. C'était un homme religieux, un pharisien, un grand théologien. Il a été éduqué au pied de Gamaliel, qui était le plus grand théologien de ce temps-là. Et cependant, cet homme, sans le savoir, luttait contre Dieu. Il se faisait donc des illusions. C'est comme le Seigneur lui dit. C'est comme si le Seigneur lui disait, « Paul, tu te fais des illusions. Tu te fais des illusions, Paul. Et si tu veux vraiment que je change ta vie, tu dois être délivré de tes illusions. » Et j'ai noté ici cinq illusions que les hommes se font aujourd'hui. Cinq illusions concernant la foi. Peut-être que vous faites aussi, vous avez aussi ces illusions. Vous pensez que c'est comme ça, alors que la parole de Dieu dit que c'est tout à fait autrement. Cinq illusions que les hommes se font. La première illusion, c'est celle-ci. C'est que nous croyons que notre religion peut nous sauver. Est-ce que ce n'est pas une illusion que beaucoup se font aujourd'hui? Paul, il pensait que sa religion pouvait le sauver. Vous êtes d'accord avec moi? Il le pensait, mais est-ce que sa religion l'a sauvé? Pas du tout. Donc, il se faisait des illusions. La première illusion, c'est de croire que notre religion peut nous sauver. Si tu crois cela, tu te fais une illusion. Et il y a beaucoup de gens. Voilà pourquoi certains, soi-disant, ne changent pas de religion. N'avez-vous pas entendu dire cela? Moi, mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père était comme cela, moi je reste comme cela. Dans le fond de leur pensée, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que c'est ma religion qui me sauve. Parce que si je quittais ma religion, je serais perdu. Est-ce que c'est seulement du temps de l'apôtre que les gens raisonnaient comme cela? Est-ce que c'est seulement de ce temps-là que les gens se faisaient de telles illusions? Pourquoi est-ce que les hommes sont tant attachés à leur religion? Comme Paul, il était convaincu et il était rempli de fureur. Dans ses excès de fureur, il persécutait les chrétiens, pensant que la fidélité à sa religion pouvait le sauver. Mais il s'est trompé. Il s'est trompé, il se faisait une illusion. Et beaucoup aujourd'hui se font des illusions. N'est-ce pas vrai, chers amis? Beaucoup se font des illusions aujourd'hui, pensant que leur religion les sauvera. Mon ami, écoute-moi bien, si tu crois que ta religion te sauvera, comme Paul croyait qu'il pense que sa religion pouvait les sauver, tu te trompes, tu te fais des illusions, et tu seras perdu un jour si tu crois cela. Le Seigneur a dû changer Paul, qui était un homme religieux. Ce n'est pas une religion qui sauve, c'est Jésus qui sauve. Alléluia! Et Jésus lui a dit, quand Paul a dit, « Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. » Voyez-vous, il semblait servir Dieu, mais il était en train de persécuter Jésus parce qu'il persécutait les vrais chrétiens. Beaucoup de ces gens religieux persécute aussi le Seigneur, parce qu'il persécute les vrais chrétiens, n'est-ce pas vrai? Voilà une illusion qui doit tomber dans notre vie. Ce n'est pas la religion qui sauve, c'est Jésus. Amen. Nous pouvons changer, nous pouvons avoir 150 religions dans notre vie, aucune d'elles ne sauvera. C'est l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, dans Actes chapitre 4, verset 12, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous pouvons être sauvés que le nom de Jésus. Alléluia ! Voilà, ce n'est pas la religion qui sauve, c'est Jésus. Et laissez-moi vous dire une chose, beaucoup ont une religion, mais ils n'ont pas Jésus. Ils n'ont pas de sauveur. Et Paul était comme cela, il avait une religion, mais il n'avait pas de sauveur. Il n'avait pas Jésus. Et laissez-moi vous dire une chose encore. Et quand nous avons Jésus, quand nous avons le sauveur, nous n'avons plus besoin de religion. Vous auriez pu dire Alléluia, Alléluia, gloire au Seigneur. Il n'a plus besoin de religion, parce que ce n'est pas la religion et Jésus qui sauve. Et il y en a, vous savez, qui sont c'est des fameux, comment dirais-je, pharmaciens spirituels. Ils savent toujours faire des bons mélanges, voyez-vous. La religion plus Jésus, voyez-vous. Jésus moins la religion, plus Jésus moins la religion, voyez-vous. Plus, moins, plus, moins. Ils sont là, oui, avec, sans ça. C'est la confusion totale. Si c'est seulement Jésus qui sauve, la religion ne sert à rien du tout. Amen. Es-tu conscient de cela? Une première illusion, chers amis. Combien se font encore des illusions aujourd'hui, dans notre 20e siècle civilisé, soi-disant évolué? Il y en a qui vous diront encore, moi j'ai ma religion, je meurs dans ma religion. Et vous leur prêchez l'évangile, vous leur apportez Jésus, ils n'en veulent pas. Quelle tragédie! Quelle tragédie! Mon ami, il n'y a qu'un nom qui sauve, c'est Jésus. Aucune religion n'est connue là-haut, mes amis. Il n'y a que le nom de Jésus. Tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Une deuxième illusion. Afin que tu leur ouvres les yeux, Paul, ouvre les yeux de tous ceux à qui tu t'adresses. Ils se font des illusions. Une autre illusion. Ma moralité et mes bonnes œuvres me sauveront. Est-ce qu'il n'y en a pas encore aujourd'hui qui croient cela? Ma moralité et mes bonnes œuvres. Combien croient cela? Je fais le bien, je suis quelqu'un de bien, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je n'ai pas menti. Il faut le dire un peu en vitesse d'ailleurs, ça, je n'ai pas menti. Il faut le dire un peu vite, en vitesse, il faut le dire. Parce que si on revient mettre un peu plus le flash là-dessus. Je n'ai pas menti en vitesse. Oui, on va se dire que je n'ai pas dit de trop gros mensonges, quoi. Par rapport à ceux qui disent de grands mensonges, oui. Par rapport à... Oui. Ma religion, mes bonnes œuvres, ma moralité me sauvera. Mes amis, ça aussi c'est une religion. C'est une, je veux dire, une illusion. Une illusion. Absolument rien de ce que nous faisons nous sauvera devant Dieu. Amen. La parole de Dieu dit, et cela doit être clair, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Éphésiens 2:8. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ce n'est point par les œuvres. Et cependant, nous entendons aujourd'hui, mais que nous pouvons être sauvés par les œuvres quand même, par la foi, mais aussi par les œuvres. C'est une illusion. Si tu crois que tu es sauvé par la foi en Jésus et par tes œuvres encore, tu te fais des illusions. Tu as besoin d'avoir les yeux ouverts. Tu te trompes. C'est par grâce que nous sommes sauvés. La parole de Dieu dit que notre intelligence a été obscurcie, que nos sentiments ont été obscurcis, ont été souillés, que notre volonté est une volonté rebelle. L'homme tout entier est pécheur et il ne peut présenter quoi que ce soit qui puisse plaire à Dieu. Je sais que c'est une vérité qui ne plaît pas, n'est-ce pas vrai? Paul a dû avoir du courage pour dire cela à Agrippa, à Festus. C'est pourquoi le Festus, à un moment donné, lui dit: Festus, mais tu es fou, Paul. Tu es fou. Ton grand savoir te fait déraisonner. Tu es en train de perdre la tête, Paul. Qu'est-ce que tu racontes là? Qu'est-ce que tu racontes? Que c'est par grâce que nous sommes sauvés, que le Christ devait souffrir pour mourir à la place des péchés des hommes et à la place de ton péché. Mais où as-tu vu cela? Paul, mais je n'ai jamais entendu cela. C'est la première fois que j'entends cela. En effet, Agrippa, en effet, Festus, c'est la première fois que tu entends cela. Les philosophes grecs, les philosophes romains ne peuvent apporter un tel message. C'est une révélation divine. Alléluia! C'est le message de l'évangile que Dieu m'a communiqué pour le salut des hommes et pour la délivrance des captifs. Alléluia! C'est une parole qui n'est pas montée du cœur de l'homme. Nul homme n'a pu saisir, concevoir cela, c'est impossible. Au contraire, la parole de Dieu dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Alléluia! À l'intelligence humaine, ce message est une folie. C'est pourquoi Festus lui dit, tu es fou, Paul, tu es fou. Et si nous croyons cela, mes amis, on nous taxera de fous aussi, n'est-ce pas vrai? Mais laissez-moi dire une chose, des fous comme Paul, il en faut bien plus dans ce monde aujourd'hui. Des fous comme Paul, s'il y avait beaucoup plus de fous comme lui, le monde serait beaucoup plus sage. Amen. Le monde serait beaucoup plus sage s'il y avait plus de fous comme Paul. Le monde serait beaucoup plus libre s'il y avait beaucoup plus d'hommes esclaves comme Paul. Ouvre-leur les yeux. Je t'envoie pour leur ouvrir les yeux. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. C'est Christ qui a payé le prix, mon ami. Christ a payé le prix. Tu n'as plus rien à payer qu'à croire. Tu ne peux pas acheter ton salut. Tu ne peux pas. Ni tes larmes, ni ton argent, ni tes prières, ni tes souffrances, rien ne peut acheter le salut. Le salut d'une âme coûte trop cher. Et d'ailleurs, Dieu ne te le demande pas, parce que tu ne le peux pas. Tu ne peux pas payer ton salut, et Dieu ne te le demande pas. Donc cesse de lutter, cesse de chercher dans cette direction-là. Abdique, accepte le pardon de Dieu comme un cadeau, comme une grâce. Amen. Alléluia. Une troisième illusion maintenant. Paul, je t'envoie pour que tu leur ouvres les yeux. Une troisième illusion. Dieu est trop bon pour damner quelqu'un. Est-ce que vous n'avez pas entendu cela? Dieu est trop bon pour condamner quelqu'un. Et on vous dit Dieu est amour. Et alors, un Dieu d'amour ne condamnera jamais quelqu'un. Mais on oublie qu'un Dieu d'amour a dit autre chose. Jésus lui-même a dit, dans Luc chapitre 13, verset 3, vous savez, quand des gens sont venus et on dit à Jésus, « Jésus, il y a une tour qui est tombée sur des gens. Est-ce qu'ils étaient plus pécheurs que les autres? Cette tour est tombée et a tué beaucoup de gens. Est-ce qu'ils étaient plus pécheurs que les autres? Certainement qu'ils sont maudits, ceux-là. Certainement que c'est des grands pécheurs. Voilà pourquoi la tour est tombée sur eux. Nous, elle n'est pas tombée sur nous, la tour. C'est que nous sommes des gens bien. Voyez-vous, Jésus voyait cela dans leur cœur. Il voyait cet esprit pharisien, cet esprit critique, cet esprit de supériorité. D'ailleurs, quelqu'un de religieux, c'est quelqu'un qui se croit toujours supérieur aux autres, n'est-ce pas vrai? Moi, je suis meilleur que l'autre. Le religieux, c'est quelqu'un qui méprise l'autre. Parce que le religieux, il se croit toujours supérieur à l'autre. Et laissez-moi vous dire, c'est avec les gens religieux que Jésus a le plus souffert sur la terre. Amen. C'est avec les gens religieux. Il disait à ses disciples, bien souvent, « Méfiez-vous de ces gens religieux. Leur levain, c'est l'hypocrisie. Ce sont des gens hypocrites. Extérieurement, ils paraissent bien, mais intérieurement, leur cœur est sale et mauvais. » Et Jésus leur a dit à ces hommes, à ces femmes, il leur dit non, ils n'étaient pas plus responsables que les autres. Ils n'étaient pas plus pécheurs que les autres. Mais Jésus leur a dit, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous. Voilà ce que dit un Dieu d'amour. C'est Jésus plein d'amour qui dit cela. Alors vous dites, Dieu est trop bon pour condamner quelqu'un. Mais la parole de Dieu dit autrement. La parole de Dieu dit autrement. Et Jésus dit, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous. Chers amis, ça aussi c'est une illusion que beaucoup ont. Alors, parce qu'il croit cela, moi j'ai connu quelqu'un en Suisse, c'était un ancien d'église, un ancien d'église, il était bouillant au début, bouillant, il prêchait la parole de Dieu, il était bouillant, mais à un moment donné, quelque chose est entré dans son esprit. Cette illusion, cette séduction est entrée dans son esprit. Et il a cru que Dieu était plein d'amour et que jamais il ne condamnerait qui que ce soit. Il a cru cela. Et vous savez ce qui s'est passé dans sa propre vie ? Sa vie spirituelle a complètement baissé. Et cet homme, maintenant, ne prêche plus l'évangile. Il est exactement comme un païen. À quoi ça sert ? À quoi ça sert de vivre une vie chrétienne ? Puisque finalement, tout le monde sera sauvé. Finalement, tout le monde sera sauvé. Quelle illusion ! Quel mensonge ! C'est un mensonge ! Jésus a dit, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Chers amis, c'est Dieu qui l'a dit. Amen. L'amour de Dieu n'est pas un amour faible. L'amour de Dieu est un amour qui veut nous corriger, nous sauver et nous pardonner. Une quatrième illusion maintenant. Certains disent, j'essaie d'être un chrétien. Voyez-vous, ils essayent d'être un chrétien. Combien sont aussi comme cela ? Ils essayent d'être un chrétien. Alors ils essayent tout le temps. Et jamais ils y parviennent. J'essaye de prier, j'essaye de louer, j'essaye d'être fidèle à l'église. J'essaye. Mais la Bible ne nous a jamais dit d'essayer. Le salut ne vient pas en essayant. Le salut vient en recevant Jésus dans sa vie. Amen. Le salut vient en se repentant de ses péchés et en acceptant Christ dans sa vie. Jean 1, 12, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Tu n'as pas essayé de faire quelque chose pour être chrétien. Tu pourras essayer toute ta vie. J'essaye, je prie. Je vais prier un peu plus après cette convention. Ça m'a fait du bien, ça m'a secoué, ça m'a ému. Je vais essayer de faire mieux. Mon ami, si tu veux essayer d'être un chrétien ou une chrétienne, tu n'y arriveras jamais. Ce n'est pas en essayant qu'on devient un chrétien. C'est en recevant Christ dans sa vie comme son sauveur personnel. Amen. Ne te fais pas des illusions. Tu ne peux jamais par toi-même devenir un chrétien. Un chrétien, c'est celui qui reçoit Christ dans sa vie et qui lui donne toute sa vie. Alléluia! Voilà le vrai chrétien. N'essaye plus, mais reçois Christ dans ta vie. Amen. Une cinquième illusion maintenant. Je sens que je suis sauvé. Voyez-vous, une autre illusion, ça. Je sens. Oui, oh là, oh, je sens. Ouh, après cette convention, je sens que quelque chose s'est passé. Je sens. Et puis quand ils ne sentent plus rien, ah non, je sens que je suis perdu cette fois. Mais quand même, je sens que je serai sauvé. Voyez-vous, ils basent leur salut sur leurs sentiments. Le salut n'est pas basé sur nos sentiments, mes amis. Le salut est basé sur ce que la parole de Dieu dit. Amen. La parole de Dieu dit, Jean 3, 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Tu n'as pas à sentir que tu es sauvé, tu dois croire ce que Dieu dit. Tes sentiments sont trompeurs. La parole de Dieu ne te trompera jamais. Amen. Paul, je t'envoie, tu dois l'ouvrir les yeux. Dites-moi. Vous ne croyez pas qu'on doit ouvrir les yeux de nos contemporains aujourd'hui ? Vous ne croyez pas ? Je suis sûr, vos amis peut-être les plus proches, se font de ces illusions. Combien se font encore de ces illusions ? Soyons fidèles. Dieu veut t'utiliser. Quel était le secret de la puissance de Paul ? Quel était son secret ? C'était un homme qui a accepté de perdre ses illusions. Il a accepté de croire qu'il s'était trompé. Et il a changé. Amen. Mais combien aujourd'hui ont de la peine à accepter et de dire « Je me suis trompé. J'ai fait fausse route. Je me suis trompé. » Combien ont de la peine à dire cela, n'est-ce pas vrai ? Je t'envoie, Paul. Ouvre les yeux, car si les yeux ne sont pas ouverts, ils sont perdus pour toujours. Allons plus loin maintenant. Allons plus loin. Deuxième délivrance. Qu'est-ce qu'il est dit ? Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Voilà la deuxième délivrance maintenant. La délivrance de la mort éternelle. La conversion, c'est cela. C'est la délivrance de la mort éternelle. L'apôtre dit, et le Seigneur dit ici, il faut qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Que signifie le mot ténèbres dans la Bible ? Vous savez, quand on parle de ténèbres dans la Bible, le mot ténèbres a un sens très particulier. Il y a plusieurs passages bibliques, je ne vais pas tout vous donner maintenant, mais dans la Bible, le mot ténèbres veut dire en tout cas trois choses très importantes. Le mot ténèbres, premièrement, veut dire être dans l'ignorance. Deuxièmement, le mot ténèbres veut dire être mort spirituellement. C'est-à-dire ne pas avoir la vie de Dieu en soi. Quelqu'un qui est mort spirituellement, c'est quelqu'un qui n'a pas la vie de Dieu en lui. Et troisièmement, le mot ténèbres veut dire être en état de rébellion contre Dieu. Les gens qui vivent dans les ténèbres, ce sont ceux qui sont en état de rébellion. Ceux qui vivent dans les ténèbres, ce sont ceux qui n'ont pas la vie de Dieu en eux. Et la conversion, c'est cela. C'est nous délivrer de la mort éternelle. Car nous sommes tous pécheurs. Et à cause de cette nature pécheresse, à cause de notre péché, nous sommes morts spirituellement. L'apôtre Paul dit dans les Éphésiens, « Car nous étions tous morts dans nos péchés et dans nos fautes. » N'est-ce pas vrai ? Nous étions tous morts. C'est-à-dire que, naturellement, même religieux, même un homme religieux n'a pas de communion avec Dieu. Il peut parler de Dieu. Paul parlait de Dieu, mais il n'était pas en communion avec Dieu. Pour avoir la communion avec Dieu, il faut avoir la vie de Jésus en soi. Amen. Car c'est par Jésus que nous avons communion avec le Père. Amen. C'est par Jésus. Alors la deuxième délivrance, c'est la délivrance de la mort éternelle. Quelqu'un qui n'est pas converti, c'est quelqu'un qui est mort spirituellement. Il est séparé de Dieu. Il n'a pas la vie de Dieu en lui. Voilà pourquoi c'est un mensonge quand les religions orientales, qu'est-ce qu'elles nous font croire ? Ces religions orientales, bien souvent, qu'est-ce qu'elles nous font croire ? Hein, dans les méditations transcendantales et tout cela, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit, commencez à méditer jusqu'à ce que vous découvriez Dieu en vous. C'est pas vrai ? Voyez-vous ? On vous pousse jusqu'à découvrir Dieu en vous. Une parole qui est un mensonge et en contradiction flagrante avec la parole de Dieu. Tu ne découvriras jamais Dieu en toi. Pourquoi ? Parce que tu es mort spirituellement. Tu n'as pas la vie de Dieu. Tu n'as pas la vie de Dieu. T'as beau prier 107 ans, t'as beau jeûner 107 ans, t'as beau méditer 107 ans, la vie de Dieu ne vient pas comme cela. La vie de Dieu vient lorsqu'on se repent et lorsqu'on accepte Christ dans sa vie. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Délivrance de la mort éternelle. Nous devons réaliser cela, mes amis, que quelqu'un qui n'est pas sauvé est séparé de Dieu. Il n'y a pas la vie de Dieu en lui. Et il a besoin de recevoir cette vie par la repentance et la foi en Jésus-Christ. Amen. Troisième délivrance. Qu'est-ce qu'il est dit après ? Qu'il passe des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Regardez là, une vérité extraordinaire. Cette fois, c'est la délivrance du pouvoir de Satan. Alléluia. Voilà la conversion. Voilà la vraie conversion. C'est une délivrance de la main de Satan, du royaume de Satan, du pouvoir de Satan. Alléluia. Lorsqu'on reçoit Christ dans sa vie, par la repentance sincère, avec le désir d'abandonner tout ce qui est mauvais devant Dieu, en recevant Christ dans sa vie, alors non seulement nous avons le pardon de nos péchés, mais nous sommes délivrés du pouvoir de Satan. Alléluia! Alléluia! Gloire aux Colossiens 1,13, vous connaissez ce passage. Rendez grâce au Père de ce qu'il vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière et qui vous a délivré de la puissance des ténèbres et qui vous a transporté dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Alléluia ! Mes amis, lorsque quelqu'un se convertit, le pouvoir de Satan est brisé sur lui. Amen ! Mais pour que ce pouvoir soit efficace, il faut que toute œuvre des ténèbres, il faut que toute idolâtrie, toute sorcellerie, toute pratique occulte soit brisée, déposée, abandonnée une fois pour toutes au pied de la croix. Amen. Et c'est alors que l'ennemi n'a plus aucun pouvoir sur vous. Gloire à Dieu. Et c'est alors que l'ennemi n'a plus aucun pouvoir sur vous. Gloire à Dieu. Mes amis, quelqu'un qui est converti, cela veut dire, lorsqu'il s'est sincèrement repenti de ses œuvres mauvaises et des œuvres du diable qu'il a pratiquées dans sa vie, lorsqu'il s'est sincèrement repenti de ces choses, en acceptant Christ dans sa vie, ce jour-là, le pouvoir de Satan a été brisé. Alléluia ! Gloire à Dieu ! Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. C'est fait, c'est passé, c'est passé, c'est du passé. 1 Jean 4,4 nous dit, 1 Jean 4,4, petits enfants, je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Voilà pourquoi Paul n'avait pas peur, même devant un empereur, même devant n'importe qui. Paul n'avait pas peur. Il savait que le pouvoir de Satan dans sa vie était brisé. Non seulement brisé, mais que Christ habitait en lui. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia ! J'écoutais le témoignage d'une jeune indienne sur une cassette. C'était une jeune fille qui venait de se convertir. Et la famille n'était pas contente. Et ils ont dit, écoute, tu abandonnes ta foi chrétienne. Nous, on est hindous, on reste hindous. Et la jeune fille a dit, moi j'ai reçu Christ, il a transformé ma vie, j'ai la paix avec Dieu, je suis en règle avec Dieu, jamais j'abandonnerai le Seigneur. Alors on l'a enfermée pendant un mois dans la maison, en espérant qu'à la fin de ce mois-là, elle allait abandonner le Seigneur, n'ayant pas eu de contact avec les autres frères et sœurs. Alors on l'a enfermée pendant un mois, au bout d'un mois, la famille arrive, allez, ça y est maintenant, t'as abandonné Jésus. Et elle dit, mais plus, je l'aime plus que jamais. Je l'aime plus que jamais, c'est formidable. C'est pas possible, qu'est-ce qu'on va faire avec cette jeune fille? Alors la famille a dit certainement, il y a un mauvais esprit en elle. Certainement qu'il y a un mauvais esprit. Alors on va aller chercher, on va chercher le sorcier. On va chercher le sorcier, il faut qu'il chasse ce mauvais esprit de notre fille. Alors ils sont allés chercher le sorcier. Et le sorcier s'est assis en dehors de la maison. La jeune fille était encore à l'intérieur. Et le sorcier était là assis et il attendait. La jeune fille sœur, elle dit, Seigneur, aide-moi, s'il te plaît, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à tenir ferme. Elle voit le sorcier qui est assis là, elle regarde le sorcier comme ça. Et quand les yeux de la jeune fille ont croisé le regard de ce sorcier, le sorcier a commencé à trembler. Et alors, il a été paniqué. Quand il s'est levé, le sorcier, le tremblement est parti. Mais voilà ce qu'il a dit. Elle a une puissance en elle qui est plus forte que la mienne. Alléluia. Alléluia. Elle a une puissance qui est plus forte, plus grande que la mienne. Alléluia. Amen. Et le sorcier, il est parti vaincu. Et notre petite jeune fille, avec Christ en lui, est restée vainqueur. Alléluia. Mon ami, la délivrance du pouvoir de Satan, cela veut dire que si Christ est en toi maintenant, tu es plus fort que l'ennemi. Alléluia. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Oh, j'aime cette parole. Alléluia. Rien ne pourra te nuire, car celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Délivrance du pouvoir de Satan. Je lisais aussi un autre témoignage d'une autre jeune fille, cette fois c'était en Chine. En Chine. Vous savez qu'il se passe des choses extraordinaires en Chine. En Chine. En Chine. Une jeune fille de 19 ans. Elle était chrétienne, elle aimait beaucoup le Seigneur. Un jour, elle devait partir voir d'autres chrétiens. Elle était à bicyclette. Alors qu'elle faisait du vélo, tout à coup, un bandit, un voyou, sort d'un endroit où il était caché. Tout de suite, il se place devant elle. Descends ici. Donne-moi ton vélo. Donne-moi ton argent. Et tu viens avec moi maintenant. Tu viens avec moi. La jeune fille a dit, non, je ne viendrai pas avec toi. Tu viens avec moi. Elle a crié dans son cœur, Seigneur, aide-moi, aide-moi. Je ne viendrai pas avec toi. Comment, tu ne viendras pas avec moi? Tu dois obéir. Si tu n'obéis pas, je sors mon couteau. Et il a sorti son couteau. Maintenant, tu obéis et tu viens. Elle dit, non, non. Si tu ne viens pas, je te poignarde. Elle a dit, je ne viendrai pas. Seigneur, aide-moi. Et il a fait ça. Au moment où il voulait la poignarder, paralysé complètement. Il est resté comme ça. Quand la jeune fille a vu ça, tout de suite, elle a pris le vélo et elle est partie. L'autre, il était là. Paralysé. Elle est allée voir les frères et sœurs. Elle est allée voir les frères et sœurs. Elle leur a raconté l'histoire. Elle leur a dit, écoutez, voilà ce qui s'est passé. Quand je suis parti, il était paralysé, il était comme ça. Alors les autres chrétiens ont dit, mais on va les voir, peut-être qu'il est encore là-bas maintenant encore. On va les voir. Effectivement, ils sont tous partis. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Il était encore comme ça. Encore comme ça. Alors les chrétiens, ils se sont mis autour de lui. Et ils ont dit, Seigneur, aie pitié de lui, pardonne-lui s'il te plaît, Seigneur, pardonne-lui. Guéris-le, Seigneur. Et au moment où les chrétiens ont prié, il a été guéri. Au moment où il a été guéri, il s'est converti. Alléluia. Alléluia. Et pendant le mois qui a suivi, il y a eu plus de 200 conversions dans ce village. 200 conversions, alléluia. Délivré du pouvoir de Satan. Je t'envoie afin qu'il passe du pouvoir de Satan à Dieu. Alléluia. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Ne doute pas de la puissance de Dieu en toi. Mon ami, si tu savais que Jésus est en toi, si tu savais combien il est puissant. Bien souvent, nous ne le savons pas, mais le diable, lui, le sait. Et il ne veut pas que nous le sachions. Sache ce soir que Dieu est plus grand que le diable. Amen. Et il est plus grand que ce que tu penses de la grandeur de Dieu. Dieu est grand. Amen. Gloire au Seigneur. 6h30. Gloire au Seigneur. Délivré de la puissance de Satan. Alléluia. Ensuite, quatrièmement, une autre délivrance. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés. Le pardon des péchés. Voilà une autre délivrance. Quelle est cette délivrance? C'est la délivrance de la culpabilité. Pour qu'ils reçoivent le pardon des péchés. Autrement dit, qu'ils soient délivrés de leur culpabilité. L'homme est sous un poids de culpabilité, n'est-ce pas? Il a besoin d'une parole, d'un homme, d'un message. Tu es pardonné de ton péché. Si tu te repens, Dieu te pardonne. Nul autre chose ne pourra ôter que ta culpabilité, que le pardon que Jésus accorde. Amen. La foi en moi, dit Jésus, par la foi en moi, ils recevront le pardon des péchés. Seul Jésus peut pardonner ton péché, parce que lui seul a payé ta dette. Lui seul est mort à ta place. Amen. Et quand il pardonne, alors, mes amis, il ne s'en souvient plus. Alléluia. Il ne s'en souvient plus. Je lisais le témoignage des premiers Moraves, vous savez, les missionnaires Moraves au début du siècle, qui sont allés un peu partout dans le monde. Ils sont allés jusque auprès des Esquimaux, dans le pôle Nord, là-bas. Et quand ces missionnaires ont voulu prêcher l'évangile et qu'ils voulaient parler du pardon de Dieu, il n'y avait pas de mot pour le mot pardon. Alors ils se demandaient comment il fallait trouver, quel mot il fallait trouver pour le pardon. Alors finalement, ils ont trouvé un mot qui était long à peu près comme ça. Un mot long à charnière, vous savez. Et ce mot voulait dire « Je ne pense désormais plus jamais au mal que tu m'as fait. » Tout ça, ça veut dire pardonner. Désormais, je ne pense plus jamais au mal que tu m'as fait. Et c'est ça, pardonner. Quand Dieu nous pardonne, désormais, le péché que nous avons commis, il n'existe plus. Le mal que nous avons fait, Dieu ne s'en souvient plus. Amen. Il y a un passage dans la Bible, dans Michée, qui dit « Il a jeté tous nos péchés au fond de la mer. » Au fond de la mer. Encore quelques minutes. Je lisais aussi le témoignage d'un petit garçon, enfin d'un étudiant, d'un écolier, à l'école. Donc il dérangeait un peu la classe. Par moments, il disait « Alléluia, gloire à Dieu ». Il venait de se convertir, il était tout content. « Alléluia, gloire à Dieu ». Le prof a dit « Mais écoute, ça suffit. Tu arrêtes maintenant avec tes histoires. » Mais lui, il était toujours content. « Alléluia, merci Seigneur pour le pardon de mes péchés. » Alors le prof, pour le calmer un petit peu, il lui a dit « Bon, maintenant écoute, je vais te donner ce livre de géographie. Et maintenant, avec ce livre de géographie, tu le regardes et tu me laisses tranquille. » Alors le prof, il a pensé qu'avec ce livre de géographie, le gamin, il allait plus rien dire. Au bout de quelques instants, le gamin lisait. « Oh, Alléluia !» Le prof, mais qu'est-ce que tu as vu ? Tais-toi ! Tu déranges ! Mais professeur, il y a quelque chose de formidable dans ce livre de géographie. Je vois qu'il y a un passage qui dit que la science n'a pas encore découvert. Il paraît qu'au fond de la mer, il y a encore une profondeur que la science, dont la science n'a pas encore découvert la profondeur. Alors il a dit, mais c'est certainement là que Dieu a envoyé tous mes péchés. Comme ça, les hommes ne peuvent pas aller décrocher les péchés que Dieu a jetés au fond de la mer. Alors il dit « Alléluia !» Le professeur, il n'avait plus quoi faire. Alléluia ! Quand Dieu pardonne, il oublie. Amen ! Ne te fais pas de soucis. Si Dieu t'a pardonné, pourquoi te revenir sur les péchés passés ? Si tu as confessé, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia ! Le pardon de Dieu est parfait. Gloire à Dieu ! Et je termine. Dernière délivrance. Après, qu'est-ce qu'il est dit ? Et en moi, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. L'héritage. La dernière délivrance, c'est la délivrance de la pauvreté spirituelle. Dieu nous donne un héritage. Amen. Certains chrétiens pensent que Dieu ne vient que pour enlever. Dieu ne vient que pour enlever le mal, mais il vient toujours pour apporter le bien. Amen. Dieu n'enlève jamais le bien. Il enlève le mal. Alléluia. S'il enlève quelque chose de ta vie, c'est ton péché, c'est le mal, c'est ce qui te fait du mal. Mais Dieu n'est pas celui qui vient enlever le bien de ta vie. Combien de personnes pensent que suivre Dieu, c'est se priver toujours, se priver de ceci, se priver de cela. Ne pas faire ceci, ne pas faire cela. Mes amis, si tu crois cela, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Tu as besoin que tes yeux s'ouvrent. Alléluia. Il y a un héritage pour les sanctifiés. Dieu enlève le mal, mais il le remplace toujours par quelque chose d'autre. Amen. Dieu n'enlève jamais rien sans donner quelque chose en retour. Amen. Et qu'est-ce qu'il nous donne ? Un héritage, héritage, héritage. J'ai noté 7 choses ici. Voyez-vous, on en aura encore pour 7 jours. 7 choses, 7 héritages, 7, 7, 7. On va aller vite maintenant. Le premier héritage, c'est la vie éternelle. Dieu nous donne la vie éternelle. Amen. Vous ne croyez pas que c'est un héritage extraordinaire, ça ? Celui qui croit en moi a la vie éternel, c'est le plus grand des miracles. Le plus grand des miracles n'est pas la guérison d'un corps. Le plus grand des miracles, c'est le salut de l'âme. C'est la vie éternelle. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est vivre pour toujours avec Dieu. Et cette vie commence maintenant. Deuxième héritage, c'est l'assurance du salut. L'assurance du salut. Quand Dieu vient dans notre cœur, il nous donne l'assurance que nous sommes sauvés. Amen. C'est l'apôtre Jean qui dit, 1 Jean 5, 13, « Voici, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » L'assurance du salut, c'est ton héritage. Es-tu sûr de ton salut ? Es-tu sûr de ton salut ? Si tu ne l'es pas, il te manque quelque chose. Tu ne jouis pas de l'héritage que Dieu veut te donner ? Crois ce que Dieu dit. Ces choses ont été écrites afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Oh, l'assurance du salut ! Voilà pourquoi Paul était plein d'assurance. Il dit, je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Personne ne pouvait ébranler Paul. Il avait une conviction profonde que Jésus avait pardonné ses péchés. Troisième héritage, c'est que nous sommes une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand tu viens à Christ, le passé est passé. Le passé est dépassé. Alléluia. Il n'y a plus un boulet à traîner derrière toi. Jésus efface tout complètement. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Si tu es chrétien, ne va pas remuer dans le passé. Jésus a tout effacé. Amen. Tout effacé. Tu es une nouvelle créature. Gloire au Seigneur. Et sur cette nouvelle créature, le diable n'a pas de pouvoir. Ne l'oublie jamais. Sur cette nouvelle créature, le diable n'a pas de pouvoir. Le diable a peur de cette nouvelle créature. Amen. Parce qu'elle a la vie de Dieu en elle. Cette nouvelle nature a la vie de Dieu. Et tout ce qui a la vie de Dieu fait peur au diable. Alléluia. Amen. Alors, nouvelle créature, allons plus loin maintenant. Quatrièmement, c'est notre nouvel héritage, c'est la victoire sur le diable. La victoire sur le diable. Amen. Je vous écris ces choses, jeunes gens, afin que vous, parce que vous êtes forts, et parce que la parole de Dieu demeure en vous, et parce que vous avez vaincu le malin, 1 Jean 2,14, et que vous avez vaincu le malin. Vous avez vaincu le malin, vous êtes forts, parce que la parole de Dieu demeure en vous. Voilà ton héritage. Tu as autorité sur le diable. Gloire à Dieu. Cinquièmement, tu as la victoire sur le monde. La victoire sur le monde. 1 Jean 5, versets 4 et 5. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Alléluia. N'aie pas peur du monde. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est ton héritage. Tu as en toi une puissance plus grande que les plaisirs du monde, que l'orgueil du monde, que les passions de ce monde. Gloire à Dieu. Sixièmement, un sixième héritage, c'est la joie de notre salut. La joie de notre salut. Jésus a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Alléluia. Ça, c'est l'héritage d'un chrétien. La joie du salut. La joie du salut. Jésus a dit, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Est-ce que tu te réjouis de cela? C'est le plus grand des miracles. Ton nom inscrit là-haut. Alléluia. C'est un sujet de joie. Lorsque quelqu'un se convertit, les anges se réjouissent. Vous savez que dans la Bible, dans les évangiles, c'est le seul endroit où il est dit que les anges se réjouissent lorsqu'une âme se convertit. Lorsqu'une âme se convertit. C'est à ce moment-là que les anges se réjouissent. Amen. La joie. C'est pourquoi nous devons nous réjouir de notre salut, mes amis. Si quelqu'un vient dire, il y a trop de joie ici. Il y a trop de joie, il ne faut pas trop se réjouir. C'est quelqu'un qui ne connaît pas son salut. C'est quelqu'un qui ne se réjouit pas de son salut. C'est quelqu'un qui ne jouit pas de son héritage. Jouissons de notre héritage et réjouissons-nous de notre salut. Nos noms sont écrits dans le livre de la vie et personne ne les enlèvera. Alléluia! Ton nom a été écrit avec le sang de l'agneau. Mon fils Marc, Luc, Jean, ma fille Pierrette, Marcel, Janine, à partir de maintenant, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Alléluia! Gloire au Seigneur! Alléluia! Réjouissons-nous! L'apôtre Paul disait, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous, et cela dans une prison. Il se réjouissait. C'était son héritage. Réjouissons-nous, mes amis, car la joie de l'Éternel sera notre force. Plus tu te réjouis, plus tu seras fort. Il y en a qui sont faibles physiquement, spirituellement. C'est parce que vous ne vous réjouissez pas assez, mes amis. Vous avez le manteau de la dépression sur vous. Voilà pourquoi vous n'en sortez pas. Réjouissez-vous. Je vous assure, si tu te réjouis pendant cette convention, si tu enlèves le manteau de la plainte, des complaintes, des murmures, et que tu prends le vêtement de la louange et de la joie, tu seras transformé. Alléluia. Oh, alléluia! Gloire à Dieu! Réjouis-toi! Ton nom est écrit dans le livre de vie! Oh, gloire au Seigneur! Alléluia! Septièmement, le septième héritage, tu es rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Amen! Quand on est rempli du Saint-Esprit, mon ami, alors tout l'héritage est là. Nous pouvons vraiment jouir de cet héritage lorsque nous sommes vraiment remplis du Saint-Esprit. Amen! Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, c'est celui qui jouit pleinement de l'héritage de Dieu. Amen. Alléluia. Réjouissons-nous. Sois rempli du Saint-Esprit pendant cette convention. Sois rempli et tu jouiras de cet héritage. Sois renouvelé aussi dans le Saint-Esprit et tu jouiras de cet héritage. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'héritage. C'est le Saint-Esprit qui nous donne cela. Soyons pleins, soyons remplis, soyons débordants du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et nous aurons quelque chose à dire aux autres. Amen. Voilà une véritable conversion. Voilà ce que Paul a expérimenté. Voilà ce que nous devons expérimenter. Et voilà ce que nous devons communiquer aux autres. Si nous avons un tel message, mes amis, vous ne croyez pas que les gens vont se convertir? Mes amis, il y aura un réveil. L'Esprit de Dieu va agir puissamment. Et Dieu veut vous utiliser, chacun d'entre vous ici. Chacun d'entre vous. Dieu veut vous aider. Amen. Chacun d'entre vous, croyez-le. Si tu le crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen.